Magazine, Grand Témoin.
Il a été joueur de football ici en RDC, au Congo-Brazzaville et en France. Aujourd'hui, entraîneur de Cambrai Club Amateur Français, Otis Ngoma est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Otis Ngoma, soyez le bienvenu.
Merci, bonjour.
Comment allez-vous?
Ouais, je me porte à merveille, ça va très bien.
Vous avez vous-même été joueur de champ ici au pays, en face à Brazzaville et en France. Vous êtes formateur des entraîneurs et un grand cadre dans le domaine du football en France. À quel moment commencez-vous votre carrière de footballeur?
Je commençais ma carrière comme tout gamin de la rue, en jouant dans des matchs du quartier comme Agé de Lemba, Matete, et la Linguala et partout. Donc j'ai fait Asosa avec Tamiba, tout ça. Et puis c'est pour ça que j'ai signé ma première licence à la Sfikine avant d'aller renforcer Bralima, qui était au départ Bralima, qui est devenu Vitalo.
On le verra dans quelques secondes. Le 22 décembre 62, vous naissez dans quelle partie du pays?
Moi, je suis natif de Matadi, donc je suis né à Matadi très tôt. À l'école primaire de Jassin interne à Mazangou, comme ça, donc c'est la raison pour laquelle je ne connais pas trop tous les coins. Et puis après, j'ai terminé mon cursus primaire à Kinshasa, donc je suis matadien, mais.
Ayant passé beaucoup de temps aussi à Kinshasa.
Tout à fait, oui.
Alors, l'école primaire, c'était dans quelle école?
Mais moi, j'ai commencé à Matadi à l'école primaire laïque de Baoba. Et après, donc, je suis parti à Mbanzangungu, donc, à l'école du centre, avant de passer à l'Athénée de Mbanzangungu. Et puis, je suis venu terminer ça à Kisenso, à Kinshasa.
Dans quelle école?
À l'école primaire de Kisenso, ouais.
Alors, les humanités?
Les humanités, j'ai fait de l'Athénée de Linguala. Après, donc, j'ai continué avec j'ai passé un brevet de technique, à l'école technique de Kisenso, donc des frères, technique industrielle et puis automobile. Donc de là, après mon diplôme, donc j'ai été racheté, le premier joueur est acheté par Diable Noir à la Vitalo.
Vous nous parliez déjà de votre enfance, parsemée de football dans différents clubs. Quel genre d'enfant étiez-vous?
Ben, j'étais cet enfant qui devait être surveillé à tout moment parce que je passais tout mon temps sur les terrains de foot. Donc, j'ai cette chance peut-être d'avoir été bon et puis d'être sollicité dans toutes les communes. Ce qui fait que les équipes doivent se suivre. Mes parents tenaient à tout prix. Bon, on connaissait pas cette époque-là que le football pourrait peut-être
payer comme il
garantir la nation. Donc, voilà, tout à fait. Donc, bon, j'étais ce garçon qui était très dynamique.
Comment vos parents ont-ils reçu votre choix pour le football?
Le problème, donc, le déclic, c'est que mon père était décédé, j'étais très jeune. Donc, du mois où j'avais plus de père, donc j'ai vécu un petit peu de gauche à droite, à l'internat, y compris chez certains oncles, donc associé à ma grande sœur. Cette liberté de bouger, je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis pas encore aussi à l'extérieur, de bouger, m'a donné un peu cette force, m'a forgé le caractère, raison pour laquelle donc j'ai traversé l'épaule pour aller à cette époque-là déjà jouer à Brazzaville. C'était pas quelque chose de facile.
Alors, on commence votre carrière proprement dite. Comment vous arrivez à l'AS Sfikine, ici à Kinshasa?
Comme j'habitais Kinshasa, donc j'étais l'un des monuments de matchs de foot quand j'ai des Lemba, le dirigeant de l'AS Sfikine m'ont repéré. Donc ils m'ont amené là-bas, les clubs étaient en deuxième division. J'ai joué une seule saison, et puis c'est arrivé de bouche à oreille. Erzaïr à cette époque me voulait, et c'est Bralima qui m'avait donné une proposition qui était vraiment concrète, parce que je devais faire mon stage, donc de ma dernière année technique de Kisenso à Bralima. Ils nous ont mis toutes les conditions. Le président Serré, un des Barumbu, qui est devenu, je crois, maire de Barumbu, a forcé ma sollicité, a mis tous les moyens. Donc, j'ai signé à Bralima. De Bralima, on a passé deux saisons avant de faire monter l'équipe en première division avec l'entraîneur Pombi.
Vous poursuivez votre carrière en traversant le fleuve à Brazzaville, où vous jouerez d'abord dans les Diables Noirs, puis à Télésport. Comment avez-vous jugé votre passage dans ces clubs?
Bon, la première année, c'était pas très concluant dans la mesure où Vitalo voulait beaucoup d'argent, puis Diable Noir ne voulait pas donner aussi ses pactoles. Mais sinon, moi, je crois que j'étais pris dans de bonnes mains. J'étais associé, j'ai joué avec Mboulam Bembatostawo, avec pas mal de grands noms, Kouakara, et puis c'est une expérience qui était très riche. Donc j'ai passé un an, une saison un peu calamiteuse, et puis la deuxième c'était vraiment, je me suis
elle avait explosé.
Et, tout à fait, donc ce qui fait que Télésport qui avait plus les moyens, c'était une équipe d'entreprise, donc les postes de télécommunication m'a sollicité, et puis j'ai dit tout de suite oui. Donc heureusement c'est grâce à Télésport que je puis voyager pour la France.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Otis Ngoma, vous avez été joueur de football en RDC, au Congo-Brazzaville et en France. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur de Cambrai, club amateur français. Arrivé en France, vous passez par les clubs de Béziers, Matra, Racing et le CS Mo. Parle-nous de votre parcours dans ces clubs.
À Télésport, il y avait un entraîneur qui était professeur, qui avait sollicité Béziers. Je suis parti à Béziers, donc dans la région de Montpellier. Arrivé là-bas, donc 4 mois après, il y avait liquidation judiciaire. Donc c'était déjà pas très bien. Liquidation judiciaire veut simplement dire dépôt de bilan. Dès là, Jean-Luc Brider, qui était entraîneur du Matra, a été sollicité par un de mes amis, Daniel Jurette, qui jouait déjà au Paris Saint-Germain, avec Boukandé à cette époque-là. Donc ils ont accepté à ce que je termine la saison chez eux. Compte tenu des nombres de joueurs étrangers, donc les quotas étaient déjà atteints, donc je n'ai pas fait de match officiel hormis de matchs d'entraînement, des tournois de très haut niveau. Donc il y avait quand même à l'époque les Barski, Boursis, tous ces noms. Donc
les grands noms du football français.
Donc j'étais un petit dedans. Alors j'étais pris par Guidry. Guidry, c'est l'adjoint maire de la ville de Paris, qui était le champion olympique, donc qui était à cette époque la présidente du CSMO, qui m'a amené à moi. Donc elle avait un projet avec Franck Lebeuf, avec Deservi, qui est l'actuel entraîneur adjoint de Nice, avec Antonetti. Et il y avait Marc Lévy, l'entraîneur de Marseille à cette époque, des Nino, qui a joué avec Santos. Et donc c'était, y compris Franck Lebeuf, qui était mon libéraux. Donc c'était des noms, ils voulaient à tout prix qu'on aille plus loin. Donc cette époque des mots, c'était une belle aventure parce qu'on a éliminé les grands Valenciennes avec Santos.
Santos, mon souvenir.
Tout à fait au 32e de finale, ce qui a fait que Perroche, qui était son entraîneur, quand Santos m'a présenté à Perroche, Perroche a demandé à ce que je vienne jouer à Valenciennes. Et malheureusement, j'ai eu une grosse blessure lors du match contre Paris Saint-Germain, donc au 16e de finale. Une grosse blessure qui a fait que j'ai passé 3 ans à l'hôpital, et 3 ans de rééducation avec 3 intervention des ligaments antérieurs croisés et pieds supérédérales.
Que faut-il pour qu'un joueur africain puisse émerger dans le championnat européen? Nous avons posé la question à Eugène Kabongongo, qui a été meilleur buteur de Ligue 2 en France de 85 à 86 avec le Racing Paris. Il a joué 30 matchs et a marqué 29 buts. Eugène Kabongo répond à cette question lors de son passage dans cette émission. On l'écoute.
Le tout, c'était par le travail et le sérieux, parce que ce n'est pas facile. Vous arrivez en Europe, s'il n'y a pas une discipline personnelle d'abord, ça pose problème. Et je pense que la clé de ma réussite, c'était d'abord à ce niveau-là, au niveau de la discipline personnelle. Et aussi de la volonté, parce que il y a ce qu'on appelle entraînement visible et invisible. Visible, c'est ce que les entraînements normaux avec le club, mais invisible, c'est après l'entraînement. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu dors pas?
Qu'est-ce que tu bois?
Est-ce que tu fumes ou pas? C'est ce qu'on appelle entraînement invisible et ça joue sur une performance de la tête.
Otis Ngoma, là, il y a le problème de la discipline personnelle qu'évoque Eugène Kabongo. Comment vous réagissez à ça?
Déjà, merci d'avoir associé Eugène parce que Eugène, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à lui lors de la réunion qu'on a fait après l'épopée de Marbella. Eugène, c'est un grand nom. Eugène n'a pas eu beaucoup de chance que certains Africains ont aujourd'hui parce qu'à son époque, il y avait une forte concurrence et puis il a prouvé que c'était un grand attaquant. Parce que Eugène, quand même, c'est l'un des éléments du renouveau des Lyons d'aujourd'hui. Ça, les gens doivent connaître. C'est grâce à cette époque des jeunes que Lyon est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Oui, il a raison complètement, parce que le football, surtout le football actuel, n'est plus cette football archaïque des années antérieures. Aujourd'hui, le physique, la technique, la physiologie, le mental, tout est lié. Donc, pour avoir un joueur de très haut niveau, c'est un mec, comme il disait, qui doit être prêt sur le terrain et qui doit mentalement être aussi prêt, même en dehors du terrain. Donc, c'est un tout.
Mais on reproche à beaucoup de joueurs africains en Europe de manquer de discipline personnelle.
Mais je crois que c'est dans la culture, parce que c'est le problème que j'évoquais il y a quelques jours. Du moment où on n'apprend pas très tôt à nos jeunes éléments comment il faut se comporter, donc les changements d'habitude, ça c'est toujours très difficile. Donc bon, moi je crois qu'on arrive quand même à canaliser certains, mais il y a aussi certains qui échappent dans les mailles du filet.
Otis Ngoma, vous avez eu aussi une grande expérience en tant qu'entraîneur. De 90 à 97, vous évoluez à Valenciennes. Quel rôle y avez-vous joué concrètement?
C'est vrai que ma blessure, j'ai regretté énormément parce que j'étais quand même un espoir du football français en quelque sorte, en étant congolais, parce que sachez que je suis le seul jusqu'à aujourd'hui parmi mon entourage qui n'a jamais changé de nationalité aussi longtemps, comme Sarkozy l'a dit, l'immigration choisie. J'ai fait partie de l'immigration choisie parce que c'est souvent sollicité. Je suis arrivé à Valenciennes avec cette grosse blessure après 3 ans de réopération puis rééducation. J'ai rechali à Santos que c'était très difficile que je puisse retrouver ma forme. Il m'a conseillé de passer le diplôme. J'ai commencé à passer mes diplômes et du coup Perroche m'a facilité la tâche en rentrant dans le staff technique de l'ISV à cette époque-là. On était classé catégorie IN, les clubs formateurs en France, y compris Auxerre, Nantes et Les Havre. Donc j'ai eu cette possibilité d'entraîner. J'étais parmi les premiers joueurs entraîneurs. Donc j'ai eu cette possibilité de rentrer, passer par les cadets. En face, il y avait Patrice Berg, qui fut l'adjoint de Gérard Houillet à Liverpool et à Lyon. Je suis passé donc avec des joueurs comme Jérémy Jeannot, qui est l'actuel gardien de Saint-Etienne, et Johan Demon, qui est à Lens, Pascal Sigan, qui est à Villarreal, dans mon groupe. Donc c'était très intéressant. Je continuais les espoirs, devenir même l'adjoint de Bruno Messier pendant 10 mois, et puis l'adjoint de Robert Devder en national.
De 97 à 99, vous êtes entraîneur de Saint-Amand dans la Ligue régionale. De 99 à 2004, vous êtes dans le Vieux Condé. Quel accueil ces différents clubs vous réservez-t-il, vous, Africains?
Ouais, c'est très dur parce que, vous savez, moi, la chance que j'ai toujours été leader partout où je suis passé. C'était des clubs à problème, du moins, où quand ils ont besoin d'un pompier de service, dans la région où je suis connu, ils ont fait appel à moi. Donc, c'est des clubs qui avaient déposé le bilan ou qui voulaient se relancer, raison pour laquelle ils savaient que la personne qui était capable de relancer cette aventure, c'était Otis. Donc, raison pour laquelle ils sont passés par ces différentes étapes.
Pas de problème de racisme, comme on le craint souvent.
Mais les problèmes de racisme existent. Je viens de passer une émission il n'y a pas très longtemps avant mon voyage. C'était dit à l'histoire Ouadou. Je suis souvent sollicité par la presse française, même si la presse congolaise n'en parlait pas beaucoup. Je suis l'un qui fait vendre mieux les journaux dans ma région. Donc voilà. Les problèmes de racisme existent exactement. Je milite contre. J'ai toujours suivi, mais j'ai aussi une certaine façon. Je suis charismatique et puis j'essaie quand même de ne pas trop en faire.
Radio Capine, grand témoin.
Il a été joueur de football en RDC, au Congo-Brazzaville et en France. Aujourd'hui, entraîneur de Cambrai, club amateur français. Otis Ngoma est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Otis Ngoma, de 2002 à 2004, vous vous retrouvez au SC Phoenix comme conseiller technique, préparation athlétique et mentale. Je vous invite à présent à écouter la question d'un jeune footballeur congolais.
Je m'appelle Eric Kion. Je suis joueur de jiu-jitsu, je fais le stopper. Ma question est celle-ci, elle comporte 2 volets. Quelles sont les conditions que doit réunir un joueur pour réussir sa préparation physique? Et la deuxième est celle-ci, quelle aptitude doit afficher un joueur avant, pendant et après la préparation physique?
Otis Ngoma, il faut dire aussi que vous faites des recherches sur les activités physiques et sportives, la physiologie de l'exercice du footballeur, le sport élite. Comment répondez-vous à ces jeunes footballeurs congolais?
Concernant la première question déjà, quelles conditions physiques doit avoir le joueur? Bon, de toute façon, déjà pour faire du sport de haut niveau, il faut être athlétiquement bien préparé. Donc la condition physique, tout dépend de ce que son club ou son entraîneur demande. Mais l'exigence, je sais très bien que c'est le plan d'endurance. Il faut avoir une très bonne VMA, donc la vitesse maximale d'un Audi. Il faut avoir une très bonne endurance, ça c'est un. Et au niveau de la vitesse, aujourd'hui, la vitesse, c'est l'arme du footballeur. Donc, il faut être très vite. Donc, ça, c'est un problème, soit des jeunes, ou ça se prépare par un travail de coordination motrice. Donc, on essaye d'injecter au niveau connexion neurone. Après, je crois que ben, ça dépend aussi de la qualité mentale, comme je le disais tout à l'heure. Parce que pour bien être prêt physiquement, il faut s'investir, faut se surpasser. Et puis, il faut avoir cette rage de vaincre, d'arriver à quelque chose. Donc, la condition physique, ça se prépare. Et puis, ça dépend de l'entraîneur, comment est-ce qu'il est fait. Mais sinon, athlétiquement, il faut répondre aux exigences du football de haut niveau aujourd'hui.
Et après l'entraînement ?
Après l'entraînement, c'est ce que je me disais tout à l'heure, c'est la partie invisible de l'histoire. C'est la récupération. Les progrès du sportif, les progrès d'un joueur, c'est fait pendant la récupération et non pendant l'entraînement. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Donc, il y a toute une faculté de récupérer et qui passe par les massages, même si on n'a pas dit aujourd'hui, vous venez d'évoquer que je fais un peu de la recherche scientifique. Donc, raison pour laquelle aussi, je ne suis pas mis devant la scène depuis un certain temps parce que je voulais apprendre avec des grands noms qui sont aujourd'hui comme les Cazorla, des grands, des luttes légers auxquels je côtoie. Cette récupération mentale passe par exemple, les massages, boire beaucoup d'eau,
l'alimentation,
essayer de bien manger, et puis soigner ses blessures.
Aujourd'hui, Otis Ngoma, de 2004 à ce jour, vous êtes à Cambrai. Racontez-nous l'aventure Cambrai.
Donc Cambrai, c'est un club qui était monté en CFA, donc 4e division française, et dont les choses ne se passaient pas bien parce qu'il y a eu beaucoup de départs, il y a beaucoup de départs tous les ans, c'est un club qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc le président du club, un chef d'entreprise, donc en retraite, il a la retraite, qui voulait relancer, puis tenter une aventure, et puis surtout que son club soit connu un petit peu dans l'Hexagone, donc partons en France. Donc il a fait le choix, là où il y avait pas mal de grands entraîneurs, parce que sachez qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont le DS, le diplôme que Patrice Neve a aujourd'hui, certains qui ont le DPS, mais qui sont au chômage, il y a une centaine. Donc nous qui avons des clubs de ce niveau-là, on peut dire qu'on est chanceux. Oui, mais tout à fait. Donc M. Prévost avait, parmi tous les entraîneurs, il y avait 13, choisi Otis, donc c'est là où je peux vous dire qu'il n'y a pas toujours ces problèmes de racisme, même s'il existe. Hein? Donc il y a aussi un problème des compétences. On ferme les yeux, on dit on le prend quand même, on l'utilise et puis on aura des résultats. Voilà quoi. Donc j'ai signé à la Cambrai en 2004. Donc la première année sous arrivée donc avec un départ de plus de 12 joueurs. Donc j'ai relancé l'équipe. On a fini deuxième ex-aequo. Malheureusement c'est pas nous qui sommes montés. Feni qui est monté derrière. Feni où j'étais préparateur mental. C'est un club aussi coaché par un de nos compatriotes, ceux qui connaissent bien le football congolais des années 80, et connaissent qui est Winnie Zaïra, qui a joué, je crois, pas Sozacom, ou ça va être Sozacom, ou Maboud, non, Sozacom, je crois. Donc, il est entraîneur, c'est un Congolais. On fait partie de cette génération qui, peut-être dans les années à venir, changera un peu
l'image
de ce football congolais dont les gens nous traitent un peu de tocards.
Alors, Cambrai-Marseille.
Ah.
Cambrai-Marseille,
ça c'est une autre aventure parce que moi, mon souci c'était, c'est vrai que j'ai toujours fait des Coupes de France comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec Mo et puis certains clubs, même des petits niveaux, où je suis passé avec Gironde, je suis arrivé au sixième tour. J'ai cette chance, faculté, d'aborder des grands entraîneurs, surtout de les contrer dans les choix tactiques. C'est mon domaine. Hein. Donc, je suis payé pour ça. Les clubs de haut niveau me sollicitent pour superviser beaucoup de matchs. Je suis très, très heureux. Alors, Cambrai-Marseille, donc, on joue tout d'abord, avant d'arriver à Marseille, il y a un club mythique qui est Reims. Il faut passer Reims. On va jouer, on est tiré, comme il n'y a pas trop d'écart, on joue à Delon. Delon, c'est le club mythique où Copa a joué. Les gens, il y a plein de Ligue B qui a battu Reims à cette époque-là. On arrive, ils nous prennent pour tout à fait, donc ils font des discours un peu, bon, 0-0, juste à dire, je vais aller voir contre quand. Hein. Et à la sortie, on me pose la question, j'ai dit, si je joue comme ça contre nous, on les élimine. Alors, ils ont rigolé, ils ont fait tout un problème. Non, c'est pas grave. Donc, les jours du match, 0-0, je fais rentrer un jeune que j'ai récupéré le même jour le matin. Un jeune de 17 ans. qui venait d'un petit club. Je lui ai dit, c'est pas de Bécart, tu joues. Donc, les clubs, les genoux, déjà, tout le monde dit, mais aussi, il fait toujours des choses un peu bizarres, on comprend. Bon, on part, c'est moi qui est entraîneur, on arrive là-bas, il reste les 15 minutes de jeu, 0-0, on est menacé, dominé un petit peu, je fais rentrer Stéphane Bécart. Deuxième, troisième ballon, je demande deux ballons dans les intervalles, parce que je voyais que la défense de Reims s'alignait trop, ça montait trop avec Barbier et puis Iliège. Bécart, c'est lui qui marque. On élimine, Reims 1-0, on revient. Et là, le lendemain, c'était déjà la folie. 6h, 7h du matin, Jean-Michel Larquet, Luis Fernandez, RCN, Radio Monte Carlo, toutes les radios françaises, les chaînes de télé, c'était Yazé qui est pour Cambrai. Donc on va à Marseille, le tirage, c'est ça Marseille. J'ai avec mon fils Cyprien qui est marseillais. D'ailleurs, Cyprien qui a 10 ans, qui est sollicité, enfin qui est suivi par les LOSC. Mais lui, il va jouer pour les Congos. Hein. Donc, il ne sera pas comme certains. Il va jouer pour le Congo, même s'il est métis. Donc, on va là-bas, au tirage, on arrive. Basile Boli tire Cambrai. Et moi, j'ai dit Marseille. La presse se retourne et tire Marseille. Et raison pour laquelle, je crois que toute la presse française en a parlé. Donc, et on arrive à Marseille.
Et à Marseille, qu'est-ce qui se passe?
Alors, à Marseille, on est fusillé par toute la presse. J'avais pris le train, ce jour-là, il n'y avait pas d'avion. On est suivi jusqu'à la gare, on est accompagné dans le train. Bon, c'était déjà une folie, j'arrivais plus à gérer l'histoire. Partout où j'y passais dans la ville de Marseille, ils disaient, ouais, c'est l'entraîneur de Cambrai, c'est autiste, c'est tout ça. Et puis, j'arrive à Cambrai, c'est une conférence de presse qui m'attend. Et puis, tout est parti comme ça. Bon, après, bon, je crois quand même que je fais partie du domaine, je connais bien mon boulot. J'ai formé l'agence France Presse que désormais, parce que j'avais plus de vie. J'ai trois téléphones à la maison, je sonnais tous les minutes. Ma femme était devenue secrétaire, les enfants, ça répondait de partout. Donc, à l'entraînement, il y avait beaucoup de monde. On a préparé les matchs jusqu'au jour J où on devait rencontrer Marseille. Donc, les matchs s'est joué à Villeneuve-d'Ascq parce que Valenciennes ne pouvait pas nous donner prêter ses installations. On s'est déporté pour aller jouer à Lille.
Caché en fond de moi, et mon piège à tête, mon papier qui se déroule en fond. Et des bras longs, mon cœur dit-moi. Car on se trouve par un pas gênant, mais gardez pas mon chien, c'est là qui m'y fait bien. Les ajouts à son qui m'y fait bien, on le sait quoi par vous. Oh,
Nous tombons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Nous avons contacté quelqu'un qui vous connaît, Otis Ngoma. Je vous invite à suivre le témoignage qui fait de vous au micro de notre confrère Christian Moulumba de Catisport.
Otis Ngoma et à Kinshasa, dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés?
Ben, c'est un garçon que j'ai connu en Europe, c'est un garçon qui est doué dans le sport et c'est un bon technicien. C'est un garçon qui est cadre technique, s'il vous plaît, de la Fédération française. C'est quelqu'un qui prépare des entraîneurs qui arrivent du pays de l'Est pour prendre leur diplôme. C'est déjà intéressant. Moi, je suis content parce que moi, je lui ai dit, il faut pour ton pays, d'abord le Congo, parce que des gens comme ça, on en a besoin. On en a besoin dans le sens qu'il peut aider aussi le sport, c'est-à-dire pas le sport en général, mais le sport du côté football. Donc, il peut aider pas mal de cadres techniques.
Alors, quel est le message que vous lui adressiez, vous, Santos, son ami?
Qui continue, ma foi, c'est un garçon que, si c'est possible, s'il trouve un club ici, au pays, ça sera une très très bonne chose. Moi, je suis en train de penser parce que le football à Lubumbashi, ça commence à cartonner. S'il peut venir de temps en temps donner un coup de main à Lubumbashi, à former des entraîneurs du Katanga, ça sera bien. De toute façon, je vais en parler avec son excellence, monsieur le gouverneur, parce que monsieur le gouverneur aime des gens comme ça, des bosseurs, des gens qui savent cadrer les équipes. Et moi, je crois que ça sera une très très bonne chose.
Réaction au Otis Ngoma, je vous ai vu ému. Comment réagissez-vous au propos de Santos Mutubi, le coach du tout-puissant Mazembe Angleterre, dont d'ailleurs vous avez organisé le jubilé?
Oui, bon, c'était avec fierté que j'ai organisé le jubilé. Au départ, parce que j'étais co-organisateur du jubilé Toko, et puis j'ai dit que je ferais le vôtre. C'était quand même devant 5 000 spectateurs. C'est plus que le match de la sélection, quand la sélection congolaise joue en Europe. Donc c'était fort. Le message de Santos me connaît parce qu'il m'a quand même logé chez lui quand j'avais tous ces problèmes des blessures, raison pour laquelle je dis aujourd'hui, je donne des conseils à pas mal à des jeunes sur l'exode des jeunes africains en Europe qui croient que c'est l'Eldorado. Mais Santos, c'est quelqu'un qui est connu en Europe, qui est connu parce qu'il a du talent, comme d'ailleurs les jeunes. Santos s'est reconverti en tant qu'entraîneur quand il a démarré avec la sélection du Congo. Il voulait à tout prix m'avoir. J'étais son superviseur. J'ai conseillé un petit peu. Bon, même avec le talent qu'il a, moi j'ai démarré quand même très tôt comme jeune, surtout que je suis dans la recherche scientifique. Donc j'ai quand même certains avantages pour essayer de conseiller certains entraîneurs. C'est tout de haut niveau. Voilà quoi. Donc il m'a conseillé. C'est lui qui a proposé aussi à Kamango, Mayanga, en disant, attendez, la seule personne que vous avez aujourd'hui qui peut relancer la sélection du Congo à l'ère actuelle, c'est Otis qui connaît la plupart des jeunes formés dans les centres de formation, et c'est lui qui peut contrer la France, surtout pour battre la France. Et puis, malheureusement, j'ai pas battu la France, ça m'a marqué quelque chose, mais j'étais très déçu de faire un match nul.
Alors, Otis Ngoma, vous êtes marié et père de 2 enfants. Pour clôturer cette émission, quel message adressez-vous à la jeunesse congolaise qui vous suit en ce moment?
Le message, c'est le message de soutien au départ, et puis c'est que je peux dire aussi que tout le temps on est là, on essaye d'aider quand on peut aider. La preuve, les gens en parlent moins, mais j'ai été le premier qui a aidé la sélection espoir du Congo en organisant un match contre Lens à Valenciennes avec plus de 3 600 de budget, donc prise en charge, logement, hébergement, restauration et transport. On aide l'armée d'Italie avec des conteneurs déjà de médicaments, avec du matériel médical et autres. On essaie d'aider maintenant la jeunesse avec l'apport des équipements donnant à ceux qui peuvent les avoir. Et puis surtout les premiers stages de perfectionnement qu'on a fait à Matadi et qui ne s'est jamais fait au Congo. Donc qui continue, qui persévère. Tôt ou tard un jour, le pays va retrouver son élan. Je crois qu'avec les cinq chantiers dont les fait partie aussi, continuer à persévérer, travaillons et surtout aller à l'école, parce que c'est ce que j'ai craint un petit peu. La plupart des jeunes ne vont plus à l'école. La télévision, j'en déplore parce que il n'y a pas des émissions culturelles à part que la musique et puis surtout toutes ces émissions religieuses. C'est pas ça qui va faire avancer le pays. Soutenons-nous les uns les autres et surtout faire confiance aux Congolais.
Otis Ngoma, merci d'être passé à grand témoin.
Je vous remercie de m'avoir ici. En tout cas, je suis très, très flatté.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Otis Ndoma, ancien joueur de football en RDC, au Congo-Brazzaville et en France. Aujourd'hui, entraîneur de Cambrai, club amateur français et cadre de la Fédération française de football. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la réalisation et à la technique, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin et aussi nous écrire. Merci à tous ceux qui nous suivent à Mahagui dans la province orientale et partout dans le monde.